France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information avec le journal de la rédaction, avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Volodymyr Zelensky est arrivé en France. Ce matin, le président ukrainien veut finaliser plusieurs accords portant sur la livraison d'armes anti-aériennes, mais aussi des dizaines d'avions de chasse. L'objectif, renforcer coûte que coûte ses capacités militaires. On parlera par ailleurs crise industrielle en France, avec la décision attendue dans la journée concernant le sort du métallurgiste Novasco. À suivre également la crise ou la possible fin de crise plutôt au festival de la bande dessinée d'Angoulême. Enfin, l'actualité à l'étranger. On s'intéressera en particulier au sort de l'ex-première ministre du Bangladesh, aujourd'hui en exil, celle qui avait incarné l'espoir d'une transition démocratique avant d'être chassée du pouvoir par la rue, a été condamnée à mort ce matin, reconnue coupable de crimes contre l'humanité. Coupure d'électricité, pénurie de combustible. Un quatrième hiver en guerre se profile en Ukraine, où l'envahisseur russe multiplie les attaques contre les infrastructures énergétiques de son voisin. Afin de briser la résilience de la population, comme des soldats ukrainiens assiégés, pris au piège même dans la région de Donetsk ou la ville de Pokrovsk, notamment, est sur le point de tomber. Ce matin encore, Moscou a revendiqué la prise de 3 nouveaux villages. Et puis, outre l'avancée de l'armée du Kremlin, Volodymyr Zelensky est également fragile depuis quelques jours par un scandale de corruption qui éclabousse son entourage. Preuve que les guerres sont souvent un terreau fertile, c'est vrai pour les affaires interlopes en tout genre. Une aubaine évidemment pour la machine propagandiste russe. La preuve aussi malgré tout que les derniers mécanismes de contrôle démocratique, comme la pugnacité des instances indépendantes, fonctionnent encore en Ukraine, ce dont ne peut pas franchement se prévaloir en revanche la Russie. Toujours est-il qu'il y a donc urgence aujourd'hui pour Kiev, et c'est ainsi que le président ukrainien enquête à la fois de guerre, mais aussi d'armes et plus largement de soutien, donc entamé hier un marathon diplomatique en Europe. Après la Grèce, il est arrivé ce matin en France avant de se rendre en Espagne demain. Alors que peut-il espérer de ses alliés? Eric Biegala, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes toujours à la base aérienne donc de Villacoublay, où le président Emmanuel Macron est venu ce matin accueillir son homologue Volodymyr Zelensky. Sait-on si le chef de l'État ukrainien a d'ores et déjà obtenu des garanties? Si oui, lesquelles? On parle d'un possible accord d'armement historique.
Oui, c'est une lettre d'intention qui a été signée par les deux présidents, ukrainiens et français, sur le tarmac de la base aérienne 107 à Villacoublay, après une longue entrevue de ces deux présidents avec les industriels français de la défense. Alors, pas de détails n'a filtré immédiatement sur cette lettre d'intention, mais Volodymyr Zelensky, quelques minutes plus tard, a précisé quelque peu les termes de la future commande d'armement ukrainienne. Des rafales, 100 rafales, dit-il, qui défendront efficacement le ciel ukrainien. Volodymyr Zelensky a aussi mentionné les batteries Sol-Air SAM-TP ou Mamba, que le président ukrainien estime d'ailleurs être les plus efficaces au monde et que l'Ukraine va également commander. L'Ukraine dispose déjà d'une batterie Mamba cédée par l'Italie et qui défend des agglomérations importantes. Alors, 100 rafales, c'est beaucoup, c'est énorme même. Mais ce n'est pas encore un contrat de commande, mais une simple lettre d'intention. Ce serait en tout cas la première commande à terme, ce serait la première commande ukrainienne de systèmes d'armes français de dernière génération. Jusqu'à présent, les armements français cédés à l'Ukraine étaient essentiellement des matériels de seconde main, comme les Mirage 2000. Alors, 100 avions Rafale, ce n'est pas encore une commande, on l'a dit, c'est pas encore un contrat avec l'industriel Dassault qui fabrique le Rafale, mais elle correspond, cette lettre d'intention, à l'ambition affichée par le président Zelensky de doter son pays d'une armée de l'air moderne et complètement renouvelée. Une lettre d'intention semblable a déjà été signée avec la Suède pour équiper l'Ukraine de chasseurs-bombardiers Gripen, entre 100 et 150 appareils. Les 100 rafales prévues en plus pourront permettre d'armer l'Ukraine de quelque 200 chasseurs-bombardiers de dernière génération, mais ce sera sans doute pour dans plusieurs années. Pour ce qui est des rafales, par exemple, les usines d'assaut arrivent à produire quelque 30 appareils par an. Il faudrait donc au moins 3 ans pour fabriquer les 100 rafales pour l'Ukraine.
Merci Eric Biegala ainsi qu'un Romain Lukiens pour les moyens techniques.
L'examen du projet de loi de finances 2026 reprendra aujourd'hui à l'Assemblée.
Oui, avec le risque toutefois qu'il soit transmis au Sénat avant même que les députés n'aient eu le temps de se prononcer sur l'ensemble du texte, à l'instar du projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Et puis c'est également aujourd'hui que les députés s'empareront dans l'hémicycle du projet de loi dit de fin de gestion, un texte essentiellement technique censé cette fois-ci ajuster les finances de l'année en cours. Alors dans cette ambiance budgétaire morose où l'heure n'est pas franchement à l'euphorie. La prévision de croissance de la zone euro a d'ailleurs encore été abaissée ce matin. Quoi de mieux qu'un grand raout pour vanter la politique économique de la France? Le sommet Choose France, cette grande messe annuelle habituellement destinée aux investisseurs étrangers, a ouvert tout à l'heure sa première édition franco-française pour mettre à l'honneur les entreprises tricolores donc qui investissent dans le pays, soit quelques 150 projets de toute nature répartis partout sur le territoire, le tout pour un montant total de 30 milliards d'euros, une moisson record qui sera par ailleurs célébrée ce soir à l'occasion d'un dîner à l'Élysée autour du président Emmanuel Macron. L'exécutif Rosalie Lafarge qui n'allait pas manquer l'occasion de prendre ainsi la défense du monde de l'entreprise.
Il essaie autant que possible de ne pas trop se mêler publiquement des débats budgétaires nationaux, mais Emmanuel Macron n'est évidemment pas ravi, euphémise un soutien de la copie en ce moment rédigée par l'Assemblée. Les patrons expriment leur mécontentement. Ils ont encore fait part de leur immense inquiétude la semaine dernière dans une lettre adressée au Premier ministre. Dans un mois de novembre largement consacré à la célébration du savoir-faire national, avec le salon du Made in France, l'exposition fabriquée en France à l'Élysée ou encore la semaine de l'industrie, le président veut s'afficher du côté des entreprises. L'objectif, admet un de ses conseillers, c'est de montrer qu'en dehors des débats politico-médiatiques, il y a aussi des entreprises dans ce pays qui continuent d'y croire. Il faut, dit-il encore, valoriser leurs investissements. Dans la période, c'est important. Constat partagé par Matignon. Du côté de Bercy, cette fois, on promet des échanges à bâton rompu avec les entreprises présentes sur les négociations budgétaires en cours, notamment à travers une table ronde autour de la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin. Mais plus largement encore, l'idée de la journée, c'est de revenir sur l'action menée par le président et ses gouvernements successifs depuis 2017 en faveur des entreprises et du soutien à l'innovation. Façon de rappeler à ceux qui pourraient en douter que le chef de l'État n'a pas renoncé à faire de la France une terre d'attractivité, y compris pour les investisseurs français et quels que soient les choix des députés. Même si les marges de manœuvre d'Emmanuel Macron aujourd'hui apparaissent bien plus limitées qu'à ses débuts à l'Élysée.
Alors ce sommet Choose France n'empêche pas les doutes de gagner les filières françaises. La crise industrielle continue de planer. Une nouvelle illustration avec l'avenir en question de Novascoast aujourd'hui, que la chambre commerciale du tribunal de Strasbourg doit sceller. Le sort de l'aciériste en déroute. Deux repreneurs potentiels sont en lice, Europlasma et Métal Blanc, avec des licenciements massifs envisagés dans les deux cas. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Bruno Jacquemin, délégué général de A3M, l'alliance des minerais, minéraux et métaux. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Peut-être avant toute chose, pouvez-vous nous rappeler brièvement comment Novasco, en redressement judiciaire, en est arrivé à cette situation?
Novasco a été repris il y a un peu plus d'un an, à l'été 2024, par une partie de ses activités par le fonds d'investissement Grebel et puis par une autre partie dans le sud de la France, sur Fos-sur-Mer, par l'entreprise Massegalia. Le projet avec Massegalia se porte très bien. En revanche, le projet avec Grebel, effectivement, semble avoir eu des difficultés à la fois d'obtention du financement promis par Grebel et puis l'entreprise, effectivement, s'est retrouvée en cessation de paiement et en grande difficulté financière. C'est vraiment un cas emblématique de notre sidérurgie. Novasco, c'est l'ancien Asco Metal, c'est un des leaders français, européens, voire même mondial des aciers spéciaux il y a une quinzaine d'années, qui a vécu malheureusement un certain nombre d'aléas, de reprises multiples et variées ces dernières années, avec des investisseurs qui n'ont pas toujours joué le jeu. Et c'est vrai que ce qui arrive à Novasco aujourd'hui, à ses salariés, à ses sous-traitants, au territoire sur lequel cette entreprise est installée, c'est vraiment dramatique.
Des investisseurs qui ne jouent pas forcément le jeu, en l'occurrence le fonds britannique Grebel avait promis d'injecter 90 millions d'euros, il n'en a apporté qu'un million et demi. Ce matin, le gouvernement a semblé hausser le ton, le ministre délégué chargé de l'industrie, Sébastien Martin, a annoncé qu'il allait saisir les tribunaux contre donc ce fonds d'investissement. Comment est-ce que vous interprétez ces déclarations du ministre? Est-ce que c'est uniquement une posture ou bien peut-on imaginer que cette démarche aboutisse ?
Deux choses. Déjà, je suis très content que le ministre ait décidé enfin de le faire. Il aurait pu le faire bien avant que le dernier jour qui va procéder à la décision du tribunal. Mais c'est, soyons positifs, c'est très bien qu'il le fasse parce qu'effectivement, on a un investisseur qui n'a pas tenu ses engagements qu'il avait pris auprès de l'État. Donc c'est normal que l'État aille chercher des explications sur ce point-là. Après, effectivement, ça ne va pas régler la situation de la Sieriste, de ses salariés sur le territoire national, ni la situation de la filière sidérurgie qui aujourd'hui souffre beaucoup de la concurrence asiatique et d'une faiblesse des marchés liée au ralentissement de l'automobile, au ralentissement de la construction. Voilà, on est dans une situation, la sidérurgie est dans une situation difficile et il faut pourtant la préserver parce que c'est le socle de notre prospérité économique, c'est le socle de la transition énergétique et puis c'est quand même la sidérurgie et en particulier Novasco intervient aussi pour certaines filières de souveraineté, je pense à la défense.
Et comment aujourd'hui la France peut-elle sauver donc ce qui reste de son aciérie? Les syndicats de Novasco ont réclamé l'aide de l'État avec une nationalisation, même temporaire, on en parle aussi d'ailleurs pour ArcelorMittal. Est-ce que la nationalisation est selon vous une solution envisageable et souhaitable?
Vous savez, la France n'a jamais vraiment réussi ses nationalisations. Les seules nationalisations qui ont été réussies en France, c'est des nationalisations de l'après-guerre, c'est Renault, c'est EDF. On était dans un cas de figure très particulier. La France avait besoin d'avoir des opérateurs, que ce soit dans l'énergie ou dans l'automobile, avec lesquels elle puisse avoir un projet. Donc, une nationalisation sans qu'il y ait derrière une stratégie industrielle et un repositionnement massif de l'État, y compris financièrement, pour recapitaliser cette industrie et puis pour lui donner de l'avenir, En montrant qu'elle est effectivement absolument indispensable. Il faut vraiment que nos concitoyens en prennent conscience. Elle est indispensable à beaucoup de choses. C'est le socle sur lequel se construisent les valeurs ajoutées. Donc si on abîme le socle, c'est évidemment la succession de valeurs ajoutées se fragilise. Il suffit voir les difficultés dans lesquelles les territoires qui ont subi les défaillances de la sidérurgie dans les années 80-90, les Hauts-de-France, la Lorraine en particulier, dans effectivement la difficulté qu'elles ont eu à se remettre de cela. Donc aujourd'hui, on a un vrai sujet. On est dans un contexte mondial qui est extrêmement tendu avec une rivalité entre les États-Unis et la Chine et on en paye les pots cassés aujourd'hui de manière assez dramatique.
S'agissant de cette rivalité, le mois dernier, la Commission européenne a annoncé vouloir doubler donc les tarifs douaniers sur les importations d'acier et par ailleurs réduire de moitié les quotas qui peuvent être importés sans droit de douane. C'est évidemment un plan de protection ambitieux mais qui ne pourra pas s'appliquer avant l'année prochaine. En attendant, les annonces de fermeture de plans sociaux donc s'enchaînent. Est-ce que selon vous, la lenteur de Bruxelles peut expliquer une partie, du moins des difficultés que rencontrent les producteurs d'acier de métaux français ?
Bien sûr, et pas que les acteurs français, et puis c'est toute la sidérurgie européenne qui est concernée. En fait, on est dans un dispositif démocratique. Il faut aussi en l'avoir en tête. Hein. Nos amis entre guillemets chinois et maintenant américains ne sont plus vraiment en démocratie ou prennent le temps effectivement de partager les décisions. Donc il faut aussi avoir ça en tête à un moment donné. Mais c'est clair que les décisions souhaitées de fermer les frontières, en tout cas de mettre des mesures de protection commerciale aux frontières de l'Europe pour la sidérurgie européenne sont portée par la filière française et européenne depuis plus d'un an et demi. Le ministre français de l'Industrie, Marc Ferracci, à l'époque, en février, avait déjà proposé une mesure forte au moment où allait s'engager le dialogue stratégique sur l'acier au niveau de la Commission européenne en mars dernier. Il a fallu attendre octobre pour que, effectivement, Stéphane Séjourné annonce un plan qui est très bien sur le papier. Hein. Il n'y a aucun commentaire de spécifique à faire là-dessus. La difficulté, c'est la mise en œuvre. Il faut encore que ce plan soit accepté par le Parlement européen, accepté par le Conseil européen, et puis qu'il soit mis en œuvre au plus vite.
On l'a bien compris. Merci Bruno Jacquemin, donc délégué général de A3M, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïs Guérin et à Annabelle Grelier pour la préparation.
Le festival d'Angoulême va-t-il bientôt tourner la page ?
Oui, comprenez sortir de la crise. Dans un communiqué publié ce matin, les pouvoirs publics, dont la maire d'Angoulême, ont annoncé avoir constaté l'échec de l'appel à projet initié par l'Association du Festival International de la BD. En revanche, les financeurs proposent une nouvelle gouvernance. Pierre Repère, bonjour.
Bonjour.
À l'avenir, le futur du festival sera décidé par une autre structure, l'ADBA, l'Association pour le développement de la bande dessinée à Angoulême, qui devrait notamment, Pierre, donner plus de poids aux éditeurs et aux auteurs.
Oui, face au boycott annoncé, la société organisatrice du festival, 9e Art Plus, avait annoncé se mettre en retrait pour les éditions suivantes. Une annonce qui n'a pas suffi à endiguer la colère du monde. monde de la BD, car l'association qui a reconduit cette société n'est autre que l'association du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. C'est donc avec cette association elle-même, dirigée par Delphine Groux, que la confiance était rompue pour les auteurs, les éditeurs et les syndicats. Réunis tout au long du week-end, les différents acteurs du monde de la BD et les pouvoirs publics locaux ont donc tenté de trouver une issue à, je cite, « la crise majeure de défiance généralisée des professionnels ». Ce matin, les pouvoirs publics ont publié un communiqué. Nous proposons aux professionnels que l'ADBDA, qui réunit les pouvoirs publics, les professionnels et le festival, pilote la prochaine mise en concurrence qui désignera un successeur à l'actuel organisateur. Exit donc Delphine Groux et l'association du Festival d'Angoulême, qui n'aura plus qu'un siège dans la future instance. C'est désormais l'Association pour le développement de la bande dessinée à Angoulême qui reprend les rênes. C'est cette même structure créée en 2016 pour répondre à une première crise dénonçant le sexisme du festival qui avait tenté d'empêcher le renouvellement de 9e Art Plus, très contesté à l'organisation. Elle aura désormais à charge l'appel à projet pour l'organisation du festival, donc, mais aussi, je cite à nouveau, la défense des droits des auteurs, l'amélioration des conditions d'accueil et la transparence dans l'organisation. L'avenir d'Angoulême semble donc assuré, mais celui de l'édition 2026 pose encore question. Hier, dans une tribune, 285 autrices de BD, dont plusieurs lauréates, ont annoncé un girl code, c'est-à-dire un boycott féminin, pour dénoncer les violences sexuelles et sexistes du festival et de la société 9e Art Plus. Elles ne se rendront pas à Angoulême en janvier prochain.
Merci Pierre Robert.
Midi passé de 45 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Après l'Argentine, l'Équateur, le Salvador et plus récemment la Bolivie, le Chili va-t-il à son tour rejoindre la liste de ces pays latino-américains où la montée de la criminalité a fait oublier les aspirations au changement défendues par la gauche pour laisser la place à une droite aux accents autoritaires. Hier, la candidate communiste modérée Janet Jara a certes fini en tête du premier tour de l'élection présidentielle, devançant d'à peine 3 petits points son adversaire et chef de file de l'extrême droite, José Antonio Kast, ce dernier, un catholique conservateur admirateur du défunt dictateur Augusto Pinochet, semble toutefois le mieux placé aujourd'hui grâce au report des voix pour s'imposer lors du second tour. Ce sera le mois prochain.
Au Bangladesh, des élections législatives devraient se tenir au début du mois de février.
Et c'est dans ce contexte que la justice a rendu ce matin un verdict extrêmement attendu à l'encontre de l'ex-première ministre, aujourd'hui en exil, Sheikh Hasina, 78 ans. Après 20 années de règne sans partage, celle-ci avait ordonné l'an dernier la répression meurtrière des manifestations antigouvernementales qui l'ont contrainte à quitter le pays. 1400 personnes, essentiellement des étudiants, avaient été tuées, soit le bilan le plus sanglant de l'histoire du pays depuis son indépendance en 1971. Étienne Monin, bonjour.
Bonjour.
Ce matin, Étienne, la justice l'a condamné à la peine de mort.
Oui, l'histoire de Sheikh Hasina, c'est l'histoire d'une icône de la démocratie qui s'est enfermée dans la gestion clientéliste et autocratique. Après 2 décennies de pouvoir, Sheikh Hasina est la fille du fondateur du Bangladesh indépendant. Elle a été leader étudiante dans les années 70. Elle est l'une des 2 survivantes dans sa famille lors du coup d'État de 1975 qui a coûté la vie à son père. Une fois première ministre, Sheikh Hasina participe à l'essor économique du Bangladesh, mais elle est aussi critiquée pour sa gestion autocratique. Les opposants politiques, les médias sont ciblés. Les organisations des droits de l'homme dénoncent 700 cas de disparition forcée. Les dernières élections qu'elle remporte en janvier 2024, dans un contexte de boycott, marquent le début de sa chute. Elle est emportée par des manifestations monstres, avec l'explosion du coût de la vie. Ce mouvement social porté par les étudiants se transforme petit à petit en soulèvement populaire. Des bâtiments sont incendiés, la répression est féroce. Sheikh Hasina est jugé coupable d'avoir autorisé des tirs à balles réelles. L'ONU estime que 1400 personnes ont été tuées par la police été 2024. Acculée, la première ministre s'enfuit le 5 août de ce même été 2024 en Inde. Lors de l'audience, le parquet a parlé d'une criminelle endurcie qui n'a montré aucun remords. Elle a été condamnée pour crime contre l'humanité par contumace. En son absence, seul l'ancien chef de la police était présent à ce procès historique.
Merci Étienne Monin. C'est aujourd'hui que le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer sur le soutien au plan de paix de Donald Trump à Gaza et en particulier le déploiement d'une force internationale contre le risque d'une reprise de la guerre. Le texte évoque par ailleurs l'éventualité d'un État palestinien, ce à quoi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'oppose catégoriquement. Enfin, un revirement spectaculaire cette fois-ci où quand Donald Trump se dit désormais prêt à soutenir un vote à la Chambre des représentants pour la publication de tous les les documents liés à l'affaire Jeffrey Epstein. Le délinquant sexuel mort en prison, c'était en 2019. Voilà des mois que le milliardaire républicain semblait faire tout son possible pour éviter justement la divulgation de ses pièces. Nous n'avons rien à cacher, a finalement déclaré hier le président américain. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Globalement nuageux dans le sud-ouest et du centre à l'est, lumineux partout ailleurs quant aux températures. Elles seront comprises entre 9 et 19 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Fabien Etchecopar. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.